France Culture.
Les pressionnaires 290 hectopascales à plusieurs centres centrés sur le sud de la Scandinavie sans évolution notable. Dorsale sur le 25e ouest se décale très lentement vers l'est et en Méditerranée à flux modéré.
Coucou Louise, c'est Clo-Clo, comment ça va?
Je suis à Malte, il est 18h25, on est arrivé hier avec le bateau sur lequel on est tous les deux mécaniciens, cette fois avec Stan, le Sea Eagle. Je suis à La Valette, j'ai fait un petit tour en ville, j'ai cherché une plage pour me baigner. Sinon, ben, ça se passe bien. On va avoir un nouveau second. Elle vient du Nigeria. Donc, assez stylée, la meuf, quand même. Enfin, au Nigeria, elle m'a dit qu'elle peut pas bosser sur un navire nigérien parce qu'ils sont beaucoup trop machos, sexistes et que voilà, personne pense qu'elle est capable de faire de la mécanique, quoi. Donc, elle bosse que sur des navires à l'international ou des ONG. Enfin, voilà. Badass. Ouais, encore bon tournage. Hâte que tu me racontes tes rencontres. Et voilà, j'espère à bientôt. Des bisous.
Présentiel du soir. Aujourd'hui à 13h, un anticyclone 1030 millibars en voie d'affaiblissement est centré par 50 degrés nord et 2 degrés ouest. D'autre part, le front chaud d'une perturbation atlantique peu active.
Mer en vue. Cinq femmes happées par le large.
Pour les zones Pomartis, Forestheim, Le Guer, Fichier et German, avis de confiance au secteur sud.
Et coucou mon Clo-Clo. Il est 6h29, on est lundi matin. Et je suis devant la gare Montparnasse pour partir à Lorient, commencer le tournage. Et en ce lundi matin, j'ai une très grande pensée pour toi parce que c'est quand même toi qui te donne envie de faire ce doc. Et je suis trop déçue de ne pas te croiser à Lorient. Et j'espère que tout va bien. Et qu'on s'appelle très 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 bientôt pour débriefer de tout ça. Gros bisous mon petit caillou.
Salut Louise. Ils annoncent un super beau temps. Donc on ira sur la Vasière qui est un peu dure parce que la zone où moi je pêche, sincèrement je pense qu'il ne faut pas aller jusque là, voilà pour ça. Et j'ai un bouquin là d'une centaine de pages qui s'appelle « Éloge de la Palouille ». Donc je peux t'en lire un petit extrait. En face de cet objet tragiquement inanimé qu'est l'huître, totalement vulnérable aussi. La palourde bénéficie d'une autonomie.
Une expérience de Louise André et Marie-Laure Simoulé.
Elle ne connaît ni tir, ni astéris, ni nas, ni murex. Pas de prédateurs. Pas de parasites non plus. Les maladies l'épargnent et les marées noires, étrangement, la fortifient. T'as vu, elle est badass, hein, la palourde.
La première fois que j'ai navigué, c'était sur le Belém. C'est pas ce que j'attendais moi, en fait. Parce que, en fait, le Belém, c'est de la croisière. Moi, je pensais qu'on allait être dans l'équipage, à tout faire avec l'équipage, etc. On a fait un petit peu, mais maintenant que je sais comment fonctionnent ces bateaux-là, c'est assez complexe d'avoir des personnes qui viennent à la semaine et qu'on met à la manœuvre. Bah, il y avait une gabière, hein. Sur ce bateau, je pense qu'elle était seule à cette époque-là. Et c'est vrai que je m'étais dit, waouh, quand même, ça c'est un sacré métier, je sais pas si je serais capable de le faire, et à la fois ça fait complètement rêver, quoi. Les gabiers et gabières sont des membres d'équipage qui montent dans les mâts, en fait, pour assurer tout ce qui se passe au niveau des voiles. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment accessible aussi aux femmes, forcément, ça peut créer une envie.
J'étais avec des potes un soir, on passait du fleuve Oyapok pour aller vers un petit layon. Il y avait peut-être même pas 100 mètres à faire en barque à la rame. Et en fait, c'est la nuit, on est quatre dans la barque et moi je fais une panique. total. On commence à s'enfoncer dans le Léon, il y a des branches dans tous les côtés, mais il y a des monstres qui vont sortir, c'est pas possible. Et il n'y a pas d'échappatoire, tu vois. Tu peux pas te dire je vais sauter, il n'y a pas de terre.
Je me rappelle une fois, j'ai une copine qui m'invite sur un bateau. Et donc c'est la première fois où j'ai la sensation de la gîte et que le bateau il penche et je me dis non mais il y a personne qui s'inquiète là, on va se retourner c'est sûr. Et pourtant j'avais l'habitude d'être dans l'eau, de voir le mouvement des vagues, mais d'avoir cette sensation où t'es complètement déséquilibré, je la connaissais pas et j'étais waouh, c'est quand même une sensation hyper effrayante, c'est un milieu hyper incertain et c'est très hostile et je sens que enfin il y a quelque chose à faire avec.
Mon expérience, enfin, on va dire notre expérience maritime, parce qu'on l'a faite à deux, avec Max, mon conjoint, c'est qu'on a traversé entre Tahiti et le Chili sur notre bateau de 11 mètres. Ce départ de Tahiti, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et enfin, en plus, on a eu quelques petits déboires, quelques petits problèmes techniques, et. Mais dans quoi on s'engage? Et on partait pour 40 jours de traversée jusqu'au Chili, et donc on n'était que tous les deux. Pour tous les deux, ça a été la première fois qu'on se retrouvait vraiment livrés à nous-mêmes en mer, sur un petit bateau, vraiment au large. Ça a été, en fait, notre première expérience maritime très engageante pour notre niveau qu'on avait à cette époque-là. On s'est à la fois senti seul, on s'est à la fois senti puissant, on s'est à la fois senti débordé, mais ne pouvant pas reculer, parce qu'on n'allait pas faire demi-tour et se dire, ben non, on rentre à Tahiti, en pire, on reste là, enfin... Mais cette sensation, ce premier départ là, tous les deux, ouais, je pense qu'on s'en souviendra. Ouais. Ouais.
Coucou Louise. Je suis sur le pont avant, là il est 7h05 et je viens d'assister à un lever de soleil magnifique. On est en train de passer un chenal étroit entre les îles de Vulcano et Lipari, dans l'archipel des îles éoliennes au nord de la Sicile. Et sur Vulcano, il y a un volcan actif. Et c'est la première fois que je vois des fumerolles comme ça. Donc on est en train de passer dans un petit passage. Et les îles sont montagneuses, elles sont hautes. Et c'est à la fois impressionnant et beau. Et puis c'est aussi tout doux comme moment. Il y a presque personne qui est levé encore. Et le soleil commence à briller, la mer est toute calme. Il y a des petites rides sur l'eau. C'est tout doux. Et moi, je finis mon quart, je vais pouvoir bientôt aller me reposer. Et quand tu me demandes pourquoi... Enfin, qu'est-ce qui m'a attiré au départ dans les métiers de la mer, et ben, en fait, maintenant, je me souviens que bah, c'était vraiment ça, quoi. C'était le fait d'être dehors, de pouvoir sentir mon corps, avoir des sensations avec les éléments naturels et me sentir vivante. Et enfin là, je me souviens de mes premiers quarts de nuit, notamment une fois quand j'étais en bateau stop en Norvège. J'avais pas réveillé ma relève, enfin ma relève et la relève de ma relève, et j'avais fait toute la nuit de quart tellement je kiffais voir ce ciel étoilé. Et ce sentiment de tranquillité, enfin, l'aspect propice à la méditation et la contemplation. Et là, pour moi, là, c'est un peu le Graal. Là. La montagne et la mer, c'est le rêve pour moi.
Regardez la mer, j'adore, évidemment. Je crois que ça me procure des envies de voyage, justement. Je trouve ça beau d'aller de voir un horizon à perte de vue, là. Alors, enfin, à la fois, quand même, des rochers. J'aime pas quand il n'y a qu'une côte vide, juste une grande plage. Bon, c'est quand même un peu ennuyeux. Mais voilà, quand même, des rochers. Et encore mieux, des rochers bien mal rangés, là, comme on a ici, où il y en a partout, ils sont tous en désordre. Mais quand même, après, avec un horizon qui laisse l'imagination partir... aussi loin que l'horizon va, et...
C'était une idée au départ, l'idée du bateau, l'idée de partir, d'échapper à quelque chose, et d'aller vers l'inconnu, vers un ailleurs qui promet voilà, des choses nouvelles et une sorte de, peut-être, je sais pas moi, régénérescence, faire autre chose, quoi, simplement. Couper les ponts avec la région parisienne et tout ce qu'il y avait autour dans ma vie, de social et de matériel, etc., pour aller vers un ailleurs.
Ça forge intérieurement un imaginaire très fort, surtout quand c'est quelque chose auquel on n'accède pas, bien sûr. Et du coup, forcément, il y a une frustration, je pense, qui se met en place, une saine frustration, quoi, de se dire, en fait, je connais pas, et quels moyens je mets en place pour y accéder. Moi, ça n'a pas été mes priorités jeune, ni ado, ni c'est pas du tout apparu comme des choses à faire à ce moment-là. Mon père a beaucoup navigué avec ses oncles quand il était enfant, quoi, avec toute cette partie de la famille. Donc il y a plein d'histoires de marins. Et donc je suis arrivée au milieu maritime à travers juste cette envie de connaître les sensations que mes ancêtres avaient connues. Qu'est-ce que c'était que ce milieu-là qui était toujours assez attirant. Je suis née à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Et j'ai grandi en Creuse, donc extrêmement loin de la mer.
Je suis née et j'ai grandi, on va dire, 3-4 ans à la campagne. Quand j'ai eu 4-5 ans, avec ma famille, on est parti s'installer sur Paris pour des raisons économiques.
Je suis née à Nantes, dans le centre-ville, comme une bonne citadine.
Quelques jours après ma naissance, je suis rentrée chez moi, dans le petit village de Planquette. Mais assez vite, je suis allée vivre avec mes parents à Saint-Ca, qui est sur la côte. Et c'est de là que j'ai mes souvenirs de petite fille de la mer et de la côte et de la plage. Je pouvais aller à l'école de voile à vélo le mercredi et le samedi. La plage, c'était mon jardin en tout cas. Toutes les plages de Saint-Ca, je les connais par cœur. Je pense pas que j'avais une idée de métier lié à la mer. Si, quand même. Pas forcément à la mer, mais j'ai voulu faire l'école nationale de la météo. Travailler en mer, non, parce que je crois que j'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi. Pour moi, la mer, c'était plutôt du loisir. C'est assez tard que j'ai compris qu'on pouvait travailler en mer. Ça a pas tellement été une vocation. Je me permettais pas de l'imaginer, je sais pas trop pourquoi.
J'ai fait mes études à Nantes. Mes études en STAPS pour devenir enseignante en EPS. Donc j'ai tenté plusieurs fois le concours, je ne l'ai pas eu la première fois.
J'ai fait des études, on va dire, techniques dans le monde du son, de l'image.
Moi, ça n'a pas été mes priorités. Je faisais du financement de jeunes entreprises, donc un travail très intellectuel, de bureau, de la levée de fonds, de droit, de choses comme ça.
J'ai suivi un ami à une période de ma vie où j'étais un peu perdue, justement, et j'ai écouté cet ami qui m'a dit « Ah, mais moi, je suis à l'école à la marine marchande, c'est génial, je viens de faire un stage sur un porte-conteneur, je suis allée en Chine. » Et j'étais là « Waouh, mais c'est splendide, c'est ça que je veux faire. » Et je l'ai suivi à l'école, et puis je me suis dit « Mais que c'était une école géniale. »
Sans doute, je dois avoir... 28 ou 29 ans, et je commençais déjà à avoir envie de faire autre chose, découvrir le monde, tout ça. Et en fait, j'avais pas le temps de partir voyager. J'ai commencé des études universitaires de sciences politiques, géopolitiques. À ce moment-là, je m'intéressais à la répression policière à la frontière entre le Brésil et la Guyane. Puis en 2013, en fait, c'est le point de rupture où je quitte Paris et je décide d'aller m'installer à la frontière du Brésil et de la Guyane, au bord du fleuve Oyapock. Et en fait, je vis au bord d'un fleuve qui est immense et je prends le bateau tous les jours.
La vie faisant, c'est qu'à 30 ans, que j'ai pris la décision de dire, bon, en fait, il doit y avoir quelque chose à faire pour moi avec la mer. Mon enjeu, c'était d'apprendre à naviguer, de savoir, en fait, utiliser un bateau pour me déplacer. On prend en compte les vents, les courants, et y a des voiles et plein de bouts dans tous les sens qu'il faut manipuler. Donc voilà, il y a beaucoup de connaissances à acquérir.
J'ai rencontré un gars qui était en stage sur les chantiers navals et donc qui avait fait une initiation au métier de la mer. Et en fait, quand il m'en a parlé et que moi, j'étais en train de galérer sur mon concours et que je sentais que malgré les 6 années d'études, j'étais en train de m'accrocher à quelque chose, j'étais vraiment en train de me perdre, je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ensuite, j'ai voulu passer mes diplômes de matelote.
L'école de la marine marchande, dès la première année, je me suis dit, mais c'est super, je vais me régaler avec cette école et avec l'avenir auquel ça prépare, quoi. Donc, c'est une école qui forme des officiers polyvalents, c'est-à-dire on apprend à la fois à travailler à la passerelle, donc à conduire le bateau, mais aussi à être mécanicien. Mon premier stage, j'ai dû passer 2 mois sur un porte-conteneur, je suis allée en Chine.
Les options se mettent un peu en place de qu'est-ce qu'on peut faire en fait en tant que marin aujourd'hui à la voile. Parce qu'il y avait quand même cet enjeu-là. Hein. Moi, je ne voulais pas faire autre chose que de la voile. J'étais déjà engagée écologiquement assez fort. Et j'ai eu la chance, mais ça c'est pareil, c'est les hasards de la vie. J'ai une amie qui m'a donné un magazine pour que je le lise en rentrant dans le train après une visite chez elle. Et dedans, il y a une double page sur le transport de marchandises à la voile. Et là, dans ma tête, ça fait Eureka. Et donc, je me dis, bah allez, en fait, mon objectif, ça va être celui-ci. Ça va être d'embarquer en tant que marin professionnel sur un vieux gréement qui fait du transport de marchandises à la voile. La première étape, c'est de passer un certificat matelot-pont. Donc, je passe mon matelot-pont en février 2020. J'écris à cette société qui me dit, bah ok, t'embarques. Dès que le bateau revient de sa transatlantique, tu pourras embarquer à bord, quoi. Le rêve devenait complètement réalité.
En fait, de vivre en Amazonie, au bord du fleuve, ça me donne envie d'ouvrir mes possibles. Allez, je rentre en France. Et donc, je m'inscris à la fac de Montpellier, en art. Et là, je découvre la vie au bord de la Méditerranée. Et puis un jour, j'étais avec un pote, justement, qui venait d'Amazonie. On va voir les bateaux. Et là, on voit une affiche sur un bateau. Genre à vendre. C'était pas cher du tout. Du coup, ouais, j'ai acheté ce bateau. Alors, j'ai un peu navigué avec, en accompagnement avec des personnes que j'ai rencontrées. Et aussi, surtout, tu dois en permanence faire des réparations. C'est les intempéries, c'est les aléas du port, des chocs, des bateaux qui s'entrechoquent ou quoi, ou qu'est-ce. Et donc, il y a toujours des trucs à faire. Et je décide de faire une formation en charpente marine à ce moment-là, donc pour apprendre à réparer les bateaux et à les construire. Avec mon voilier en Méditerranée, j'ai pas fait de nuit ailleurs qu'au port. La première nuit, c'était... j'étais un peu perdue. C'est une sensation très intense et à la fois de calme total. T'as l'impression d'être protégé par les éléments et bercé, bien sûr, par l'eau. D'ailleurs, quand tu passes un peu trop de temps sur ton bateau, que ce soit au port ou en mer, quand tu retournes à terre, tu tangues, c'est marrant. Et t'as une sensation de manque de cet effet qui s'installe très très rapidement, c'est étonnant. Et t'as envie de retourner en fait sur le bateau parce que cette sensation de flottance un peu, elle apaise, elle fait du bien.
Quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était une autre vie tellement c'était incroyable de se retrouver là. J'étais la seule nana. J'avais quel âge ? J'avais 20 ans, élève sur un bateau de 300 mètres avec je sais pas combien de milliers de conteneurs et avec des Croates et des Philippins. Mais c'était incroyable, j'ai adoré, ça s'est très bien passé. J'ai des souvenirs du passage du canal de Suez, j'ai des souvenirs du détroit de Malacca, entre l'Indonésie et Singapour, qui est un resserrement avec un trafic maritime énorme. Tu fermes les yeux et tu passes, tu as des centaines de petites embarcations de pêche indonésiennes, tu as l'impression qu'elles disparaissent sous ton étrave et tu te dis « mais est-ce qu'elles vont sortir de l'autre côté ?»
Quand j'arrive sur le quai et que le bateau il est là et que en fait je vais monter à bord, là c'est clair que c'est fou ce qui se passe parce que ouais je suis devant l'accomplissement de mois de travail personnel en fait pour réussir à arriver à cet endroit-là. Le bateau est magnifique en plus, vraiment un vieux gréement très beau et là c'est magique en fait. Moi je pense que je décolle complètement. En plus, on vient me chercher à la rame. Enfin, on est vraiment dans un truc très, très traditionnel. Les bateaux ont des âmes, hein, on le sait. Bon, là, en plus, on parlait d'un bateau de 1916, hein, donc qui avait quand même vraiment des années derrière lui. Quand toutes les pièces s'emboîtent, on n'y croit pas trop et on dit oui à tout. En plus, on est là, allez, on prend tout dans ses bras à fond, quoi. Et on fonce, ouais.
Louise, petit vocal pour te dire que quand j'ai commencé à embarquer, je trouvais que la vie normale était ennuyante, j'avoue. Maintenant, je trouve plus du tout. Je trouvais que tout était plus marrant quand ça bougeait, quand t'as des vagues. Enfin, c'est tellement plus marrant de faire la vaisselle quand le bateau bouge, quoi, que quand t'es chez toi et que bah, c'est trop facile, quoi. Tu t'ennuies. Juste le fait d'être sur l'eau, que tout soit un peu différent, un peu altéré, je crois que j'aimais bien ça. Que ce soit un autre espace-temps, ouais, un peu un monde parallèle, un peu différent. Enfin voilà, je vais essayer de me reconnecter un peu à ce côté fun que j'aimais bien au début.
La grande traversée de l'océan Indien, je me rappelle. Ça, c'était vraiment un temps un peu long. C'est quand même la première fois que je passe autant de temps à ne voir que du bleu, du bleu, du bleu.
Il y a des sensations incroyables quand on est sur un navire qu'on ne peut pas du tout ressentir à terre. J'ai eu la chance de faire un baptême de pilotage d'avion et on a un peu ce truc-là où à un moment donné, en fait, on est avec les éléments. C'est la mer qui nous porte, c'est l'air qui nous porte, c'est l'air qui nous pousse quand on est sur un bateau. On est à la merci des éléments et on joue avec eux pour avancer, pour faire ce qu'on veut. Et ça, c'est unique. Hop, on sort du port, on coupe le moteur, on se met à la voile et là... Et puis, bah, y a la faune locale, on est en contact avec des choses... C'est magnifique d'être en mer. On va croiser des baleines, on voit des dauphins, c'est magnifique. Et tu vas voler voir 25 000 fois, c'est toujours aussi génial.
Un des bonheurs de passer du temps en mer la nuit, c'est de voir le plancton fluorescent reluire dans la vague d'étrave, là. Ouais, ça, c'est un petit bonheur. Un petit bonheur luxueux.
Le ciel auquel on accède aussi en étant en mer, auquel c'est très difficile d'accéder quand on est à terre, c'est un émerveillement perpétuel. Parce que une nuit va être nuageuse, l'autre va être complètement découverte, ça va être la pleine lune, ça va être nuit noire, il va pleuvoir, il va faire beau, les nuages c'est magnifique tout le temps. Il y a toujours les questions, généralement pile quand on est au milieu de l'océan. Mais qu'est-ce que je fous là ? Quand on est à équidistance, moi je l'ai ressenti dans les deux transats, à équidistance en fait de la Terre avant nous et après nous. Tchou ! Oh ! On est vraiment au milieu là. Et donc, il y a des sensations un peu spéciales à ce moment-là, je trouve. À chaque fois, quoi, de se sentir vraiment très très petit.
Même des temps passés à la machine où tu vois pas grand-chose de la journée, rien que d'aller passer une demi-heure en fin de journée, sortir, regarder la mer, ça suffit pour te dire « Ah oui, on est quand même dans un environnement exceptionnel. » Et on est là, quoi. On est en plein milieu de rien. J'aime bien me prendre du recul, comme si j'étais dans l'espace, et de me dire, et de faire mettre un petit point sur l'océan, me dire, ouais, là, on est là, quoi. Et là, je trouve que ça prend toute son ampleur, ça remet à sa place. Ça redonne du sens, justement, à sa présence sur un bateau. Parce que, bon, comme dans tout boulot, il y a des moments durs, chiants. Des fois, t'as envie de rentrer chez toi. Puis, en fait, t'es là, bah ouais, on est quand même là, c'est chouette.
Coucou Louise, j'espère que tu vas bien et que le montage de ton docu avance bien. Là, moi, je suis en train de finir mon quart. Je te fais un petit vocal en attendant ma relève. Je me suis levée à 3h45 du matin. Et après, à 4h, je suis de service, quoi. C'est un peu dur, j'avoue, à 4h en général, mais heureusement qu'il y a le café. Et puis sinon, bah, j'aime bien le quart de 4 à 8, en fait. C'est le matin, c'est vraiment tranquille, tu vois personne. Souvent, il y a le cuistot qui se lève vers 6h30 pour préparer le petit-déj. Enfin, on a trop de chance, on a genre des pancakes au petit-déj. Ou des super salades de fruits, enfin c'est un peu le resto quand même ici. La tranquillité, et puis aussi bah c'est trop cool, j'ai tout le temps le droit au lever de soleil. Enfin quand je suis pas en train de bosser, mais en général, souvent je peux me libérer 5 minutes pour aller voir le lever du soleil. Il y a l'officier en passerelle qui m'appelle pour me dire Clotilde viens, c'est le lever du soleil, trop sympa. Voilà.
En fait, moi, mon idée, c'était que je voulais partir dans les mers du Nord, je voulais partir au Groenland, je voulais partir en Arctique, c'était vraiment mon idée. Et j'ai trouvé un embarquement. Quand je me suis retrouvée sur le bateau au Groenland, en fait, c'était hyper beau, ça, c'est clair que c'était magnifique. Les paysages, c'était incroyable, mais on est dans l'immobilité. Là, pour le coup, on est vraiment dans la contemplation, il y a des choses à faire sur le bateau, mais j'arrivais pas à avoir ce goût comme plein de marins que j'ai rencontrés, qui racontent des histoires et qui sont sur leur bateau, qui vivent plein d'émotions. En fait, je me rendais compte que ce qui me plaisait, c'est d'être au contact de l'eau et donc d'être sur l'eau et d'être entouré d'eau et de ne pas pouvoir y aller. J'y trouvais ma contrainte, quoi. Le bateau, c'est super. Le bateau, il est en mouvement. Mais ce qui me manque, moi, c'est d'être moi en mouvement avec le milieu marin, quoi.
La marine marchande, t'es tellement haut sur l'eau. T'es un peu déconnecté de l'élément mer, quoi. Une tempête sur un porton de mer, c'est comme si tu soufflais une bougie, quoi. Enfin, tu sens pas grand-chose. Et en plus, au fur et à mesure, je pense que j'ai eu ma conscience un peu écologique, éthique, etc. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même choisi une école qui est le premier acteur de la mondialisation et du commerce maritime mondial. Je ne me rendais pas du tout compte quand je suis rentrée à l'école. Et je me suis dit, mais en fait, dans toutes ces boîtes, c'est que des chinoiseries qui vont venir inonder l'Europe, dont on n'en a pas besoin. Bon, après, j'ai grandi et quelques années plus tard, je me suis dit, non, je n'ai pas du tout envie de transporter des conteneurs. C'est pas forcément que... Si, c'est peut-être une... C'est peut-être la seule raison, peut-être, quand même. Mais oui, c'est ça. Les premiers souvenirs qui me viennent de cet embarquement-là, c'est pas forcément des souvenirs vraiment liés à l'élément mer, c'est plutôt à la marine marchande, en fait. C'était un vrai embarquement de marine marchande. C'est pas un embarquement avec des sensations maritimes, quoi.
En plus, j'ai vraiment eu une très, très mauvaise expérience. J'ai trouvé un embarquement avec un capitaine avec qui ça s'est très, 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 très mal passé. J'ai pas forcément envie de revenir là-dessus, mais vraiment, enfin, un gros harcèlement moral et sexuel. En plus, en étant au Groenland, ben, puis on n'était que deux sur le bateau, je pense que, enfin, j'avais pas la possibilité d'appuyer sur une touche pour dire SOS, venez me sortir de là. Donc, en fait, je suis allée au bout de l'embarquement. Et quand je suis revenue, juste, j'étais vidée, j'étais lessivée.
La particularité du milieu maritime, c'est qu'on est sur un huis clos, au milieu de l'eau, où il n'y a pas d'échappatoire. L'enjeu émotionnel et psychologique en mer est quand même de taille, parce qu'on est plus fatigué, parce qu'on est loin de ses proches, parce que voilà, on est isolé. Le milieu maritime est comparé à un milieu carcéral. Hein. Si on se penche un peu vraiment sur les conditions, on reproduit quasiment à l'identique une vie carcérale sur un bateau, ça fait un peu peur. Donc prendre du recul et se dire tiens, là il se passe vraiment ça, et donc en fait, moi j'accepte pas, c'est quasiment impossible. À terre, on s'en va, à terre, on se positionne, à terre, beaucoup plus tôt, en fait, sur des problématiques humaines comme ça. Donc, il faut lisser un maximum, parce que il faut tenir jusqu'au bout de la nave, quoi. Donc, ça rend les dégâts, on va dire, causés par ces agissements assez forts, puisque généralement, c'est juste une sortie, quoi. Hop, bah, tu navigueras plus sur ce bateau-là, tu navigueras plus dans l'entreprise, on fait partir les gens. Et systématiquement, on fait partir les personnes victimes. Ouais. Et on prend un risque en fait si on s'exprime, c'est ça qui est compliqué, il y a une omerta extrêmement forte au sein même du navire, alors à l'extérieur auprès de l'armateur et tout encore plus, parce que c'est vraiment des systèmes clos quand même les navires, donc prendre position est très difficile, parce qu'on subit de l'abus de pouvoir de la part de la hiérarchie qui a du mal à concevoir un mode de fonctionnement différent, parce que ça fait des centaines d'années que c'est comme ça, et donc pourquoi on ferait autrement?
C'est un milieu masculin, encore plus dans la mer professionnelle. Moi, j'en ai jamais souffert, et je pense que c'est une question de génération. J'étais encore la génération où, ben, pour pas en souffrir et pour se faire accepter, ben, on se met un peu dans le moule. Maintenant, je vois, et j'aurais du mal à agir comme ça, mais c'est intéressant. Je vois la nouvelle génération de filles qui arrivent, qui, elles, le but, c'est pas d'être dans le moule, c'est d'être acceptées telles qu'elles sont. Et ça, je trouve incroyable. Alors, à la fois incroyable, je les trouve hyper fortes, ces filles qui mènent ce combat-là. À la fois, des fois, je suis quasiment moi-même, en tant que fille, un peu choquée par les manières qu'elles utilisent. Il faut considérer que ça va mettre un peu de temps à changer. Et ne pas se braquer trop vite envers quelqu'un qui a peut-être prononcé une phrase pas très délicate. Alors, lui dire, lui montrer que ça se dit pas, etc., ok, mais pas se braquer trop vite. Parce que je pense que c'est contre-productif, mais je les encourage totalement.
Moi, j'étais vraiment très naïve sur ces sujets-là avant d'embarquer, parce que dans ma vie, j'ai jamais été confrontée à ces problématiques-là. Avant d'arriver dans le secteur de la marine marchande. Et donc, je pense que moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que femme à bord, parce que je me suis imprégnée de la culture du bord. Et ça, je pense que c'est un des plus gros enjeux qu'il y a vis-à-vis de la place des femmes à bord des navires, c'est la culture du bord. Qu'est-ce qui est transmis par l'armateur, par le capitaine, et qui se transmet d'équipage en équipage sur un navire, qui peut ancrer en fait toutes les personnes, hommes ou femmes, dans des habitudes, et donc laisser en fait œuvrer des comportements, des attitudes, des paroles, des affichages qui sont pas du tout respectueuses en fait de l'ensemble des genres.
Des fois, je me dis, oh, il faudrait que je change de métier. Peut-être que... Bon, évidemment, comme tout le monde, des fois, j'en ai un peu marre. Et je pense à un autre métier. Et puis, il y a un truc qui me raccroche, c'est de me dire, en fait, je crois que finalement, je sais le faire, ce métier-là. Et bah, rien que ma présence comme femme dans ce métier-là, je me dis, bah non, je vais garder ma place, en fait. Et ça me... Voilà, je me dis, ok, bah, en fait, j'ai ma place ici et je la garde.
J'ai fait d'autres embarquements aussi, et en fait, j'ai trouvé ça hyper hiérarchique. Et du coup, je m'y suis pas du tout sentie bien, mais j'avais toujours une appétence avec le milieu marin. Et comme avant l'embarquement, j'avais trouvé quelques boulots en ostréiculture, eh ben, je me suis dit que, en revenant de cet embarquement, j'allais retourner en ostréiculture pas loin de chez moi, parce que je voulais faire quelque chose toujours dehors. Et. Toujours avec ce milieu marin. Et en fait, je me suis retrouvée à nouveau avec un patron qui n'était pas cool. Et en fait, je voyais souvent un gars venir. Je voyais qu'il déposait des coquillages dans des mannes. Et puis un jour, je vais le voir et je lui dis « Tu fais quoi, en fait ?» Et il me dit « Moi, je suis pêcheur à pied. » Et il me dit que lui, il a ses petits spots à lui, ses petits spots secrets. Je capte qu'il fait ses horaires lui-même, qu'il est son propre patron. Et donc, je commence à lui poser plus de questions. Lui, il me parle d'une formation. J'ai vu que c'était quelques mois, je me suis inscrite. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu mon permis de pêche à pied et mes licences en baie de Morlaix.
Le reste du pays,
force 2, c'est une mer belle. Même si les zones côtières en rostant les lourds connaissent encore en ce moment
force 3, c'est la mer peu agitée.
Ce matin, en revanche, les 4, c'est 12, il est 12 à Orléans, 14 à Mulhouse, 15 à Paris, 16 à Nîmes.
Vent de secteur ouest à nord-ouest, force 8 à 9, sur les zones sans dépier, manche est, manche haute.
Coup de vent de secteur sud-ouest, force 8.
J'ai l'impression que c'est ça qui me donne toujours envie d'embarquer, c'est d'aller. De s'enfuir un peu, c'est la déconnexion à la vraie vie. Et ça, je la trouve tellement riche, cette déconnexion. Et ensuite, les bienfaits qu'a eu la déconnexion lors du retour, cette prise de recul sur la vraie vie, sur ce qu'est la société, sur cette spirale infernale de la vie qui s'enchaîne, et de partir en mer, mais même 2 jours quasiment, ça suffit déjà pour... On oublie ce qui se passe à terre, on oublie qu'on aurait pu faire, je sais pas, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire autre chose. Enfin, il y avait quelqu'un qui nous attendait, ou je sais pas, il y avait un rendez-vous. Bref, non, on oublie et on déconnecte. Je pense que c'est ça qui va me faire continuer d'embarquer.
C'est très grisant. Mais c'est ce qui rend très difficile de rentrer à terre. On s'aliène complètement au bateau. C'est assez complexe et c'est quelque chose qui est partagé par toutes les personnes qui ont navigué plus de 3-4 mois, quoi. En fait, à bord, on s'occupe de tout, mais tout le monde s'occupe de nous aussi. Alors que quand on arrive à terre, bah hop, on est tout seul. Alors on est tout seul, il faut qu'on fasse nos courses, il faut qu'on fasse notre lessive, il faut qu'on s'occupe de notre appartement, et puis il y a les factures, et puis il y a machin, enfin voilà, on reprend une charge. Moi, ça m'a choquée. À bord, on a une charge de s'occuper du navire. On passe notre temps à le bichonner, à le réparer, à faire à manger, à faire le ménage, à faire tout ce qu'on fait à terre aussi. Mais c'est en collectif et c'est dans un but partagé, en fait. Et je pense que c'est très différent de quand on se retrouve à terre où, pouf, hop, on reprend en fait la main sur sa propre vie. Et au bout de 7 mois, mon individualité, moi c'est ce que j'ai ressenti, commence un peu à se diluer là. Et moi, je me suis posé beaucoup de questions sur, mais en fait, qu'est-ce que je fais là au bout d'un moment? Qui suis-je? Où sont mes limites? En fait, qu'est-ce que je représente? Alors qu'à terre, bah, on n'est que ça, quoi. Alors, il y a plein de gens à qui ça convient parfaitement, quoi, qui se sentent vraiment bien dans cette alternance. Mais il y en a plein pour qui c'est assez difficile, parce qu'en effet, on retrouve ce truc de... c'est dur, l'adaptation à terre. Ça prend plusieurs semaines. Voilà, au bout d'un mois et demi, 2 mois, hop, ça y est. On se dit, tiens, en fait, je vais commencer à mettre en place des projets. Moi, je voulais essayer de trouver un petit terrain à acheter, etc. Et en fait, il fallait que je reparte, quoi. Il fallait que je reparte en mer. Donc, tout ce qu'on a réussi à tâcher de mettre en place à terre, on repart. Et du coup, tout s'arrête. Et cette rupture-là, moi, c'est celle que j'ai pas voulu entretenir. J'ai décidé de ne plus rembarquer.
J'ai pas envie de fuir la vie. Parce que c'est pas le but, mais s'enfuir sur des temps précis, ça fait vachement de bien. Pour moi, il faut pas dépasser 6 mois. Il faut pas que la vie en mer dépasse la vie à terre, parce que justement, tu perds contrôle de ta vie à terre, et pour moi, c'est quand même la vie à terre, la vraie vie. Moi, je trouve que ça te fait perdre pied de ce qu'est la vie à terre, et tu rentres dans une spirale infernale de, bah, finalement... Il n'y a pas grand monde qui m'attend à terre parce que je suis jamais là. Donc finalement, je suis mieux à bord. Et bah, du coup, je vais embarquer un peu plus. Tu perds pied de ce qu'est la vie à terre, quoi. Faut avoir des projets, faut avoir un bon groupe d'amis ou de famille sur lequel tu peux compter pour te raccrocher dès que tu reviens. J'ai entendu parler de marins qui... si on pouvait mettre ce mot-là, de dépression, mais des gens qui savaient plus où ils étaient, en fait, où fallait vivre, est-ce qu'il faut vivre en mer, est-ce qu'il faut vivre à terre.
Coucou Louise. Déjà, je peux peut-être te dire pourquoi je suis pas forcément au top et enfin j'ai l'impression qu'en ce moment je vois surtout les contraintes, quoi, et que parfois je perds un peu la passion et... Enfin, j'ai l'impression que la mer, quand tu perds la passion, vraiment, tu vois plus que les contraintes. Enfin, c'est peut-être la même chose pour tous les travails, mais Je me dis que, enfin, même quand je suis pas en mer, que j'ai envie, j'ai un besoin de m'ancrer à terre, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu hors sol quand je suis à bord, d'être dans une bulle, et ça peut être confortable, mais en même temps, j'ai peur de perdre pied. J'ai l'impression d'être à la ramasse politiquement, socialement, et enfin, j'aimerais pouvoir m'engager dans des assos. C'est compliqué quand t'es souvent en mer. J'aimerais avoir des relations amicales plus stables, et j'ai l'impression que c'est pas évident. Et puis même juste de m'engager vis-à-vis de moi-même dans des activités sportives, ça c'est la galère, quoi. Et quand je vois que les contraintes comme ça, ça me démotive, quoi. Mais enfin, là, je crois le truc qui me pèse le plus sur ce bateau, c'est que on part 10 jours, 3 semaines, après on a quelques jours à terre. Il fait que 35 mètres le bateau, il est assez petit, on est une vingtaine à bord. Et en fait, pour moi, il n'y a pas assez d'espace, quoi. Et moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de bouger, même marcher. Je fais le tour du bateau en une minute, quoi. Donc c'est horrible, quoi. En 10 minutes, tu fais 10 fois le tour. J'ai fait ça hier. J'ai cru que les gens, ils allaient commencer à penser que j'étais folle, quoi. Donc aujourd'hui, je voulais faire de la corde à sauter. J'ai trouvé un coin où, genre, je peux faire de la corde à sauter sans mêler ma corde dans tous les trucs qui traînent. Et je peux faire du yoga aussi sur ce coin-là. Et juste, au milieu de ma séance, le navire a tourné, donc le vent était orienté de telle sorte que je me prenais tous les gaz d'échappement, et là j'avais envie de péter un câble, quoi. Plein de gens ont cette image de « Ah, t'es en mer, c'est romantique, t'es loin de la pollution, t'es loin de la ville, t'as de la beauté de l'océan, de l'océan, machin. » Et en fait, je suis juste à côté des gaz d'échappement et je peux pas faire mon yoga sans respirer du CO2 à fond, quoi. Bref, donc ça, c'est un peu dur. Mais après, il y a plein d'autres bateaux, hein. Faut que je teste d'autres trucs. Je suis peut-être pas complètement fichue.
Nous sommes dans la baie de Morlaix. Sur la gauche, on peut voir Carantec. Sur la droite, c'est Plouganou. Et au milieu, il y a différents petites îles. On voit l'île Louette. Et au milieu, c'est le fort du Taureau. Voilà. Et nous, seuls.
Au milieu
de la vasière. c'est super apaisant.
Eh bien, allons-y.
Alors, on va commencer à chercher les petites coupes palourdes. Quand c'est des petits coefficients, donc par exemple, comme aujourd'hui, si théoriquement j'arrive à l'heure, donc on va dire aller 2 heures avant la marée basse, je vais pouvoir me mettre au bord de la laisse de mer. Et en fait, descendre avec elle, la suivre, pêcher au fur et à mesure, la laisser partir au loin, parce que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au point de marée basse. Souvent, il y a un petit changement en plus dans l'air, il va y avoir un petit changement, le vent va m'indiquer aussi que c'est marée basse. Aussi, c'est rigolo, on a remarqué avec les autres pêcheurs que les trous disparaissent à marée basse, comme si, je sais pas, il y avait un petit effet de succion dans l'eau et on voit plus spécialement les trous. Et en fait, elle va remonter. Et pareil, là, sur des petits coefficients comme aujourd'hui, parce qu'il y a 60, je vais pouvoir remonter tout doucement avec la mer jusqu'à ce qu'il y a un moment, j'ai plus de trous de palourde et elle va m'indiquer qu'il faut que je rentre.
Moi, au bout d'un moment, dès que je vois un petit trou, peu importe, je mets la main.
Ici, on est dans une zone où elles sont un peu petites. La seule contrainte que j'ai, c'est les horaires de marée. Donc, en fait, ma seule patronne, c'est la lune qui me dicte mes horaires de marée.
Donc, je sais pas, on essaie.
J'habite aussi juste en face de la mer, plus dans la rade.
Ici, c'est un peu sablonneux. Petite palourde, mais elle n'est pas à la taille.
En plus, j'ai ma fenêtre avec l'évier de la cuisine juste en face de la mer. Donc, quand je fais ma vaisselle, j'ai toujours ce contact avec la mer.
Donc, ça, celle-ci, c'est bon. Mais sinon, c'est trop petit.
Donc en fait, je la vois tous les jours, vraiment.
petite palourde.
Jamais blasé. À chaque fois, c'est... Mais bon, je pense que beaucoup de Bretons vont dire ça, que les couleurs échangent tout le temps, donc le paysage échange tout le temps. Et donc, ben, c'est vrai. Et c'est un peu la surprise à chaque fois de... Tu vois qu'il va faire beau, sauf que le lendemain, tu te lèves, t'es dans la purée de poids, et tu vois pas la rive d'en face. Et puis, ben, je prends ma voiture, j'arrive ici, j'ai un grand soleil, je comprends pas pourquoi.
Si je la vois depuis mon balcon, c'est pas pour rien. La mer amène toujours... Déjà, elle change tout le temps. Ici, c'est jamais pareil. Ce matin, on voyait pas la plage en face. Là. Il y a de la brume, on voyait rien. Quand il n'y a pas de vent, c'est un miroir. Moi, je peux passer des heures à ma fenêtre, là, juste à regarder ce qui se passe, quoi. J'ai pas de télé, hein, j'ai juste une fenêtre sur la rade. Et c'est génial. Donc, il y a toujours ce plaisir, de toute façon. C'est la première fois que je vis au bord de la mer, en fait. Avant, je vivais à Toulouse ou en Creuse. C'est pas la même chose. Enfin, en fait, je suis arrivée au départ pour une réunion et je suis pas partie. Je me suis installée là, j'ai trouvé un appart, machin, bidule. Je devais bosser 4 mois, j'ai bossé 2 ans pour eux. Non, il y a une réalité autour de la présence de la mer au quotidien qui, moi, me fait vraiment du bien, quoi. Je sais pas si c'est l'horizon hyper large de se dire waouh, je peux voir loin, si c'est les potentialités que ça offre aussi. Je vais me baigner une fois par semaine à côté, toute l'année. C'est ça, c'est dire tiens, on va faire un peu de dériveur. Je prends le bateau-bus pour traverser, ça c'est génial. Je vais me balader sur la grève.
Quand on a décidé d'acheter une maison, je savais que c'était un goût de hyper luxe, mais je rêvais d'une maison avec la mer accessible à pied. Je ne pouvais pas concevoir autre chose. Alors je sais très bien que c'est un gros goût de luxe, mais j'avais vraiment besoin que la baignade soit accessible à pied. Alors dans les faits, avec 3 enfants, je peux pas dire que je vais me baigner tous les jours, mais c'est vrai que de temps en temps, le quotidien nous fait un peu nous enfoncer dans une petite routine où on prend pas le temps d'aller sur l'eau ou vers l'eau. Mais souvent, on se le rappelle en disant, quitte à habiter là, faut qu'on aille voir la mer, faut qu'on la touche, faut qu'on la sente. Et les enfants... On trouverait ça tellement chouette que dans quelques années, ils connaissent la mer Vrac par cœur. Donc, chaque caillou, chaque petit recoin, à marée haute, ça passe. Là, marée basse, là, ça passe plus. Enfin, je trouve ça tellement enrichissant de connaître un coin magnifique comme ça et de le connaître jusqu'au bout de chaque caillou.
Ça me paraît évident que j'ai pas du tout envie de revivre dans des espaces où il n'y a pas d'eau. C'est devenu nécessaire, je pense, à mon bien-être, on va dire, intellectuel. C'est devenu nécessaire d'être en face de cette nature. Ça fait du bien au cerveau. C'est apaisant. Si t'es fatigué, stressé ou quoi, tu montes sur un bateau avec des potes, pour faire une heure ou deux ou trois... De petits bateaux à Saint-Nazaire, mais t'es refait, ça fait du bien, quoi. Ouais, ça t'extirpe de toutes les choses un peu négatives qui peuvent t'arriver dans ton quotidien, quoi.
Coucou Loulou, un petit vocal pour te dire que ça se passe super bien à bord. Je suis super contente d'être ici. Enfin, ouais, je suis super contente d'être ici, ça fait vraiment sens. Et, enfin, si j'avais commencé à me former en tant que marin il y a 5 ans, c'était pour rejoindre ce genre de projet. Et un des trucs qui me frustre depuis que je travaille comme marin, c'est de ne pas pouvoir m'engager en même temps à terre dans des projets militants, activistes. Et là, j'arrive à être en mer et faire ça, donc faire du militantisme, de l'activisme pour la faune marine. Et du coup, c'est trop bien. Voilà. Et puis, juste au-delà du fait que ça fait vraiment sens pour moi, ce taf, ben, aussi juste la vie à bord est cool, quoi. Enfin, je me sens à ma place. Et même la façon dont s'organisent les relations à bord. Enfin, bien sûr, il y a une hiérarchie. On n'a pas encore aboli la hiérarchie. Mais il y a un désir d'instaurer une bienveillance générale, d'instaurer une ambiance, un environnement où on peut communiquer ouvertement sur comment on se sent, régler les conflits par la communication. Et du coup, c'est trop bien. Enfin, je me dis, ça fait sens ce qu'on fait pour l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On essaye vraiment de créer un vivre ensemble qui fait sens, quoi.
Le fait, je pense, de faire la pêche à pied et d'être dans ce milieu vivant, moi, ça me stimule à fond. J'ai jamais fait des métiers très longtemps, mais en fait, là, je me rends compte que ça me plaît énormément. Et donc, en étant pêcheuse à pied, je me suis dit, est-ce que je vais tenir dans ce métier? Est-ce que je vais pas encore changer? Mais j'ai l'impression que ça me plaît encore un peu plus que les autres métiers. Et je sais pas, enfin, je trouve que j'ai énormément de chance de pouvoir faire ça. Mais bon, aussi, c'est peut-être parce que je suis très contemplative quand j'étais en ostréiculture et que sur les poches à huîtres, il y avait des algues qui représentaient un petit peu comme des tapisseries. Ben, je pouvais m'arrêter dans ma tâche et regarder. Et j'étais tout de suite reprise par mon patron. Et là, en fait, si j'ai envie de phaser sur le sillon du bigorneau dont je ne vois même pas le mouvement, je peux le faire. Voilà, donc ça je crois que c'est quelque chose de très important pour moi parce que j'ai une temporalité qui est très... Je suis assez distraite, donc en fait c'est parfait, je pense, pour moi d'être là et de pouvoir observer, je sais pas, même le mouvement de l'eau, les couleurs qui changent et de m'imaginer traverser la baie de Morlaix à la nage, de Carantec à Plouganou. Voilà, je rêve beaucoup et donc je pense que c'est parfait pour moi.
J'ai créé une structure qui propose du transport de marchandises à la voile. Donc aujourd'hui, j'ai un rôle d'armateur, en fait. Donc en fait, j'ai rebasculé vers des métiers terrestres. Je navigue plus. Par contre, l'expérience que j'ai acquise en naviguant en tant que marin est hyper bénéfique parce que finalement, à terme, on va employer des marins, on va mettre des bateaux en service. Je suis toujours dans la lignée que je m'étais donnée au moment où je me suis dit « Tiens, allez, je deviens marin. » C'était pour faire du transport à la voile. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mer, je me suis rendu compte que des marins, il y en avait plein, et des beaucoup plus doués que moi. Par contre, des personnes qui étaient en capacité de monter des projets, de trouver les fonds, de structurer en fait des activités, et qui s'intéressaient au transport à la voile et qui avaient la connaissance de ce milieu, il n'y en avait pas tant que ça. Et donc, mon rôle est beaucoup plus intéressant, je pense, pour le secteur à terre, à œuvrer sur les projets en tant qu'armateur qu'en mer.
J'ai perdu mon statut de marin depuis la naissance de Gabin, qui a 6 ans. Maintenant, je suis plutôt passée du côté technique et je suis dans une équipe à terre. On prépare du matériel de carottage pour aller faire des prélèvements de fond, des prélèvements sédimentaires. Et lorsque ce matériel de carottage est demandé par des laboratoires scientifiques qui ont besoin d'une mission, on embarque avec notre matériel à bord. Et nous, on s'occupe de le déployer, de le mettre en œuvre, et on donne aux scientifiques l'échantillon de vases de sable dont ils ont besoin.
Quand tu es à terre, tu peux que contempler et imaginer des aventures. Quand tu es en mer, tu n'imagines pas des aventures. Tu es dans l'aventure. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais moi, quand je suis en train de naviguer, je suis pas en train de rêver. Je suis dans le rêve. Le truc, c'est que j'ai jamais navigué sur de la longue durée. Donc je sais pas ce que c'est. Tu vois, il y a toujours ce petit rêve, cette petite flamme de ce truc à faire, qui est cool, parce que ça me stimule dans des projets à venir. Dans ma tête, il y a une petite boîte ou une petite pièce qui est fermée, que j'essaye de fermer bien à double tour, mais ça cogne et ça dit bah, quand est-ce qu'on va y aller vraiment, tu vois.
Merci à Fanny, à Louise, à Marie-Soraya et à Tony pour leurs récits généreux. Merci Clo-Clo de m'avoir ouvert la porte à toutes ces mères. Merci à Claire et à Alice. Merci à l'association AJD Bel Espoir de la Bervrac. Merci également à Yann Mangui de France Bleu Brézizel.
Coucou Louise, c'est rigolo parce que ça me fait ça à chaque fois. Je repense après coup à des choses que j'aurais eu envie de dire. C'est évidemment trop tard, mais je le dis quand même. J'ai évoqué le fait que je trouvais ça chouette de se déconnecter du monde. Mais pas forcément des humains, mais juste de la vie à terre. Et je trouve ça hyper aussi ressourçant de se déconnecter un peu de ses enfants, un petit peu, pas trop longtemps, mais ça fait du bien de sortir de ça et pour mieux les retrouver derrière. J'adore notre vie qu'on a créée, notre vie de couple avec Max qu'on a créée sur des départs et des retours. Et je trouve que c'est hyper enrichissant et on est très indépendants l'un de l'autre, tout en étant très soudés et on comprend vraiment le besoin de partir de l'un ou de l'autre, ou l'envie de partir. Ça fait qu'on se retrouve encore mieux. Et je trouve que tout le monde devrait partir un peu dans sa vie.
Pam, pam, pam. Pom, pom,
prise de son, pom, pom, Jacques-Henri Gérard.
Pom, pom, pom,
mixage,
pom, pom,
Valérie Lavalla.
Pom, pom,
réalisation, pom, pom, Marie-Laure Ciboulet.
Pom, pom,
Mère en vue, un documentaire de Louise André.
Pom, pom,
l'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron.
Mon mensonge que ce choix n'est pas le tien. Ce dimanche on t'offre une louve ou bien chien, il se torture à savoir s'il plonge ou s'il reste dans l'eau face au vent qui rend la marée haute. Soudain les pieds sont dans l'eau, à marée haute. Il ne choisit plus ses mots, mais voit comme ils ne veulent que du bien. Laissez-moi lâcher vos cœurs entre mes mains. Maintenant c'est l'heure à lui de dire s'il saute ou s'il reste.